Il y a toute une partie de ton œuvre, Gérard, qui tourne autour du terme socio-histoire. C'est même le titre d'une collection que tu as fondée, dirigée chez Belin et qui a contribué à asseoir ce terme. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu t'es approprié ce terme, comment est-ce qu'il a été refabriqué par le courant que tu représentes et qu'est-ce qu'il signifie encore aujourd'hui ?
Là, je dois dire, pour moi, c'est vraiment le produit d'un travail collectif. Cette collection, donc, on l'a co-dirigée avec Michel Auferlé. Et puis, c'est aussi dans l'environnement de la revue Genèse, à laquelle tu as collaboré, toi aussi, et puis aussi du DEA de sciences sociales. Pour moi, ça a été vraiment un moule, je dirais, qui m'a permis beaucoup de progresser par rapport à ma formation initiale, où j'avais fait de la sociologie, mais pour l'intégration des deux dimensions. Et en même temps, faire le lien avec l'histoire, parce que selon qu'on est politiste, sociologue, on est quand même marqué par sa formation d'origine. Et donc, moi, c'était plutôt quand même la version historienne de la socio-histoire. Et pour moi, c'était important ce terme, parce qu'en fait, il avait été lancé dans le champ des historiens par Daniel Roche, déjà avant, et Roger Chartier. Donc, il y avait une filiation qui me rattachait plus aux modernistes qu'aux contemporanéiste, je dirais, dans la discipline. Donc ça a été le moule où l'articulation des deux disciplines s'est fait, avec l'idée, parce que l'interdisciplinarité, bon, moi j'étais dans un débat interdisciplinaire, mais je me méfiais d'une interdisciplinarité tous azimuts. Quand on est spécialiste de rien, on se dit spécialiste de tout, quoi. Donc pour moi, c'était vraiment l'articulation, comme les sciences dures, la biochimie, etc. C'est-à-dire l'articulation de deux disciplines pour lesquelles on avait une véritable compétence.
Comment tu vois l'évolution du mot ? Parce que si on regarde un petit peu l'évolution depuis le moment où vous l'avez lancé, on a l'impression que ça s'est fortifié. Il y a des thèses qui portent ce titre, socio-histoire de tel ou tel objet, de tel ou tel événement. Comment tu évalues le parcours de ce mot et du concept jusqu'à aujourd'hui ? Rapidement, bien sûr.
Oui. Comme tout label, toute définition, il y a des appropriations multiples. Et je me souviens avec Michel Auferlé, on en a discuté souvent. On n'était pas là, les gardes-frontières d'une définition, je veux dire. Bon, mais malgré tout, il y avait un de principes qui, pour nous, définissent la socio-histoire en tant que pratique, pas en tant que théorie. On s'est beaucoup méfié d'un petit peu ces approches théoriques qui avaient été très importantes.
Donc, tu dirais que c'est plus une pratique, finalement, qu'un concept.
Oui, c'est plus une pratique dans l'articulation d'un certain nombre d'éléments. J'ai essayé d'expliquer ça dans mon petit livre, Introduction à la socio-histoire.
Oui, justement, lisant ton Introduction à la socio-histoire, donc publié en Repère, qui est une forme de manuel, donc qui est quand même censé clore un petit peu, ou en tous les cas donner un cadre d'ensemble, il me semble que tu as aussi évolué par rapport au premier temps, au début des années 90, en ouvrant encore les possibilités de la socio-histoire. Est-ce que tu peux revenir toi-même sur ton évolution ? Peut-être on imagine que tu partais plus d'une vision un peu structurale, un peu plus proche d'une sociologie à la Bourdieu. Et quand on lit ton repère, qui est une forme d'aboutissement, on a l'impression que tu ouvres encore les possibilités de la socio-histoire. Est-ce que je me trompe ?
Non, je pense que si je me suis rendu compte petit à petit qu'il y avait des gens qui pouvaient être étiquetés comme, par exemple, du côté du postmodernisme aux États-Unis et qui, pour nous, étaient de la socio-histoire. Donc, c'était aussi cette volonté de montrer que les travaux qui pouvaient finalement être rapatriés, entre guillemets, mais étaient beaucoup plus vastes que simplement des travaux qui labellisaient socio-histoire. Et qu'à l'inverse, il y a des travaux qui ont le titre socio-histoire et qui, pour nous, sont très éloignés. L'une des dimensions, je dirais, par rapport à ce que tu disais sur le structuralisme, c'était, une prise de distance par rapport à Charles Tilly, tout ça, toute cette démarche, en nous rapprochant plus de Norbert Elias, c'est-à-dire la société des individus. Comment on passe des individus en chair et en os à des groupes ? Le passage du « je » au « nous », de l'individu au groupe. Ça, c'était complètement déterminant. Et dans ma conception, parce qu'entre nous, il y a aussi des sensibilités différentes. Pour moi, c'était aussi la question des relations de pouvoir. Ça, c'est très important.
Alors justement, dans les relations de pouvoir entre disciplines, on sait bien qu'il y a eu déjà des tentatives d'interdisciplinarité bien avant la socio-histoire ou l'anthropologie historique, mais qui avaient souvent pour objectif, en quelque sorte, de donner à l'histoire comme discipline une forme d'hégémonie. C'est le cas dans les annales, c'est le cas aussi avec Brodel. Alors toi, comment tu conçois l'interdisciplinarité ? Quelle place tu donnes du coup aussi à ta discipline ? Tu le rappelais, tu es aussi historien, tu viens de là, c'est ta conception de la socio-histoire. Alors quelle place tu donnes à l'histoire comme discipline dans cette interdisciplinarité ? Et comment tu la conçois très pratiquement ?
Alors, la place, si on la prend au niveau institutionnel, moi, je n'ai jamais été recruté sur un poste d'historien. Quand même, quand j'étais à l'ENS, sur un poste sociologue, ethnologue, et après à l'école des études, directeur d'études. Donc, mon rapport avec l'institution historienne, je crois que là, je peux aussi trouver en toi un interlocuteur attentif, n'a jamais été très simple. Donc, mais j'ai quand même défendu toujours l'histoire. J'ai essayé de définir le paradigme, l'objet même de l'histoire depuis le 19e siècle, etc. Donc, pour moi, c'est plus l'historicité. Et c'est en ça qu'on se retrouvait au sein de la revue Genèse, avec des gens qui étaient politistes, sociologues, etc. Mais on avait tous en commun cette volonté de mettre en valeur l'historicité, le passé présent. Ce n'est pas une conception de l'histoire comme supplément d'âme ou comme connaissance, mais une conception de l'histoire qui nous permet de comprendre le présent. C'est aussi ce que tu fais toi-même dans tes travaux. Donc, qui nous amène à déborder un peu le champ académique pour aller vers l'espace public, quoi.
Alors, il y a une critique qui est faite à une interdisciplinarité qui amènerait les disciplines à trop se rapprocher, c'est de dire finalement, est-ce qu'on ne perd pas la différence de potentiel ? Est-ce que la richesse des sciences sociales, c'est pas que chaque discipline ayant son histoire, ses pratiques, ses méthodes, elles se confrontent et donc elles ne se rapprochent pas trop, elles restent à distance pour que le différence de potentiel soit en quelque sorte créateur. Alors, est-ce qu'il y a un risque si on adopte une forme de langue commune des sciences sociales autour de la socio-histoire, de perdre cette différence de potentiel ou au contraire ? Est-ce que c'est à l'intérieur d'une définition forte qu'on peut plus avancer ?
Moi, je suis pluraliste, c'est-à-dire je pense que la connaissance progresse par des formes différentes et que chaque choix qu'on fait a des inconvénients. Donc, effectivement, on peut défendre aussi le principe d'un ancrage plus fort au sein d'une discipline de façon à marquer toutes ses potentialités internes. Je crois à ça. Par exemple, moi, je n'ai jamais été de ceux qui ont eu cette espèce de discours du dépassement qui était très fort quand on voit Bourdieu, la génération d'avant. J'ai au contraire essayé, plutôt du côté de Marc Bloch, tu vois, d'inscrire dans une continuité, de voir ce que les générations d'avant avaient pu apporter. Alors, l'histoire économique et sociale, c'est extraordinaire. Ça a apporté des tas de choses, même si nous, on a voulu faire autre chose. Donc, c'est un petit peu ça. Je pense que chaque génération va avoir des points de vue différents, mais voilà, la recherche évolue comme ça. Mais je n'irai pas considérer que cette démarche socio-historique est en surplomb ou hégémonique par rapport à d'autres manières de faire.
Merci.
Merci.